18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Bonsoir, bonsoir à tous. 100% synthé, votre émission foot sur l'AS Saint-Étienne. Je sais pas vous, mais moi, je démarre cette nouvelle semaine la tête encore un peu dans le week-end et cet anniversaire réussi pour l'ASS, 90 ans célébré avec une victoire 1-0 face à Concarneau lors de la 31e journée de Ligue 2. Victoire compliquée, on va l'analyser ensemble. Victoire qui nous permet surtout de prendre cette deuxième place, synonyme de montée directe en Ligue 1, qui l'aurait cru il y a encore deux mois. Un anniversaire réussi également avec ses festivités avant le match et pendant le match dans les tribunes, on va y revenir. Et puis vous, supporters de l'ASS, comment vous sentez-vous après ce week-end qui restera dans nos mémoires? Venez nous le dire, on vous attend au 04 77 10 00 10. 100% synthé, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 19h.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé. Jérémy Marillet.
Autour de la table avec nous ce soir, ils sont trois. Franck Taluto d'abord, du podcast Dessous de Verre. Bonsoir Franck.
Salut Jérémy, salut à toutes et à tous.
Joris Sabi, dans Verre et contre tous. Salut
bonsoir,
Joris.
Bonsoir Jérémy, bonsoir à toutes et à tous.
Et puis votre collègue Joris est énormément ami. Je ne sais pas, peut-être que je m'avance un peu. Mais...
Exactement.
Voilà. C'est l'inverse. Frère.
Ah, c'est l'inverse. Voilà, l'ami néanmoins collègue, Paul Rivolier, dans Verre et contre tous. Salut Paul.
Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous.
Bon, que vous étiez sur votre canapé, dans votre voiture, en train de nous écouter, dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Tout le monde avait le sourire samedi au coup de sifflet final. Ambiance incroyable dans le chaudron. Avec Florian Tardieu au micro pour ambiancer le peuple vert. De Florian Tardieu.
Ah, faut pas qu'il lâche le foot, Flo.
Je sais pas si The Voice nous écoute, peut-être. Ah, Florian Tardieu et Brahim Sissoko qui s'y est également mêlé à cette joie tout en chanson après le match avec les supporters. Ambiance de folie, victoire face à Concarneau. Mais l'info qu'on retient tous en ce début de semaine, bah évidemment, c'est cette deuxième place au classement. Les Verts sont deuxième devant Angers, tenu en échec par Laval. Cette deuxième place si importante, synonyme de montée directe en Ligue 1. Vous y croyez là, messieurs? On est deuxième. Vous avez besoin de vous pincer pour y croire ou pas, Franck?
Ouais, ça fait des petits chatouilles dans le corps. C'est...
Des chatouilles dans le corps.
Ouais, c'est étonnant. Non, mais c'est vrai qu'on l'a tellement vu de loin que ça y est. Voilà, elle est à vue, on la touche, mais maintenant il reste encore beaucoup de matchs, donc faut pas que ce soit une finalité.
Non, c'est certain. Des chatouilles dans le corps. Donc pour Franck Taluto, quelle sensation physique éprouvez-vous, messieurs, vous, là, à l'instant T?
Des frissons.
Des frissons, d'accord.
Non, mais oui. ce qui est vrai, c'est que là, maintenant, on a notre destin entre les mains. C'est Paul qui le rappelait ce matin dans sa chronique. On en a beaucoup parlé de cette deuxième place. On a dit qu'elle était accessible, qu'il fallait la viser depuis quelques semaines. Maintenant, on l'a. Donc, si les Verts sont sérieux jusqu'à la fin de la saison, les Verts seront deuxième. Donc c'est ça l'information qu'il faut retenir, c'est que maintenant l'AS Saint-Etienne a son destin entre les mains. Mais maintenant, à voir comment aussi gérer ce statut, parce que maintenant on n'est plus le chasseur mais le chassé, hein. C'est Olivier Dalloglio qui aimait bien employer cette expression, et il va falloir assumer ce statut-là, sachant qu'il y a des matchs qui vont pas être faciles. Mais si les Verts surfent sur cette dynamique exceptionnelle qui dure maintenant depuis 8 matchs, il y a aucune raison que ça ne le fasse pas.
Alors, je crois que c'était après Valenciennes où Olivier Dalloglio avait une pirouette pour répondre à ce stress peut-être de la deuxième place en disant que non, ils sont toujours chasseurs. D'Auxerre, qui est premier. Bon, ça change quelque chose quand même, cette deuxième place, Paul Rivolier, ou pas dans l'esprit des Stéphanois?
Ça change forcément quelque chose. Ça veut dire qu'à cette journée de la fin, si jamais le championnat s'arrête maintenant, vous montez. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Le fait que les Verts soient que deuxième aussi, je trouve que ça reste malgré tout quelque chose de positif pour ce groupe stéphanois qui aspirera peut-être, en fonction de ce que va faire Auxerre ce soir face à Troyes, à jouer autre chose pour la fin du championnat. C'est vrai que si les Verts étaient revenus à la première place dans une position à égalité de points avec Auxerre et Angers, on aurait pu se poser la question différemment. Mais il y a encore des choses à gratter, il y a encore des choses à aller chercher. Et surtout, les prestations de l'AS Saint-Etienne ne sont pas forcément les plus abouties en ce moment. Donc, assez curieusement, je trouve ça très positif pour Olivier Dalloglio, qui a encore des leviers à l'entraînement pour garder ses joueurs sous pression. Donc ça veut dire quelque chose, parce que l'AS Saint-Etienne a su boucher un trou de 14 points avec Angers en deux mois. Et j'ai réécouté cet après-midi ma chronique d'après Saint-Etienne Dunkerque. Elle a très mal vieilli. Très très mal vieilli.
Non, mais vous nous parliez de quoi à cette époque-là?
Je disais que là c'était terminé, qu'on nous prenait pour des idiots depuis 6 mois, que ce qui était un peu le cas.
Non, mais tout le monde disait la même chose, et moi en premier.
Hein. Moi je le sentais.
C'est ça, ouais.
Ça aurait été du foot fiction. Quand vous prenez le classement 23e journée, classement 31e journée, c'est improbable d'en être là.
Les Verts ont pris 22 points.
22 points sur 24.
Et les Angevins en ont pris 8.
Et surtout
qui était premier des Angevins à cette époque-là.
Et Auxerre 14, il me semble.
Ouais, il y a eu des confrontations. On a quand même tapé Angers, on a tapé Auxerre. On a fait des performances exceptionnelles. Cette série-là, elle tombe finalement à un moment de la saison où on s'y attendait peut-être pas forcément, avec des confrontations face à des gros du championnat. Mais c'est là que les Verts ont su rattraper les points qu'ils ont perdus en cours de route.
C'est vrai que cette deuxième place, on pouvait l'imaginer, on pouvait y penser, mais l'atteindre aussi rapidement, ça.
Bah, en fait, je pense qu'on l'atteint aussi rapidement parce qu'il y a une vraie défaillance de d'Angers, surtout.
Oui.
La réalité, elle est surtout là, parce que les Verts sont propres, mais les Verts sont finalement pas beaucoup plus propres qu'Auxerre, légèrement plus, mais Auxerre continue d'avoir un joli rythme. Laval est toujours sur, je trouve, une très bonne lancée, mais c'est les Angevins qui se sont totalement effondrés. Ouais, mais Lavalois, que Rodolphe Montagnier nous annonce en zone de relégation depuis la 10e journée, ils sont quand même.
Ça commence quand même à ralentir. Laval, c'est 10 points lors des 8 derniers matchs.
Ils sont 4e de Ligue 2, ils jouaient
bien. Bien sûr, mais ce n'est que 10 points. Saint-Etienne, c'est 22. Oui. Voilà. Mais par contre, Angers, c'est 8 points. Et Angers, sur ses 8 derniers matchs, est quasiment relégable.
Vous comparez toutes les équipes avec la meilleure équipe de 2024. Donc, c'est sûr qu'au rapport de Saint-Etienne, tous les autres ont un bilan qui est finalement assez, assez léger. Je crois que c'est le Paris FC qui est la deuxième meilleure équipe derrière la Saint-Etienne.
C'est Rodez,
oui. Et avec le Paris FC.
C'est Dunkerque après.
Non, c'est le vous regarderez, c'est le Paris FC.
Bah, sur les 8 derniers matchs, attendez, je viens d'imprimer le classement. Non,
Saint-Etienne, 22. Voilà, sur la phase retour. On parle de la phase retour du championnat.
Bah, je parle de ce que je veux.
Ah oui, bon, bah d'accord. Bah, selon les stats de Jérémy Marié, on est champion de France à la fin de saison.
On parle de nos poursuivants, messieurs. Enfin, aujourd'hui, on a quand même, c'est peut-être aussi l'info de ce début de semaine. On a 8 points d'avance sur le 6e, le Paris FC. 7 sur Rodez, le 5e. 5 sur Laval, le 4e. C'est peut-être ça l'information aussi, c'est que désormais, si on fait pas de bêtises, eh ben, les playoffs, c'est dans la poche.
Ouais, après il faut être gourmand, je pense, parce que quand maintenant que vous touchez cette deuxième place, on sait comme c'est le parcours du combattant qu'il faut faire pour arriver à monter par les barrages. Plus facile, le plus simple vous rendez la tâche, le mieux c'est.
Et puis je trouve qu'en étant ambitieux, c'est le meilleur moyen d'aller grappiller des points. On l'a vu hein, ces dernières semaines, j'ai bien aimé moi le discours d'Olivier Dalloglio et des joueurs, parce que ça parlait de la deuxième place déjà après le match face à Troyes, il me semble, alors qu'on entamait tout juste une série et on disait voilà, ce qu'on vise, c'est cette deuxième place, alors qu'à l'époque, elle était quand même très très loin. Et moi, je trouve que ça fait plaisir d'avoir cette ambition-là, parce que du coup, ça les oblige à tout le temps travailler, à ne jamais s'arrêter. Et même si là, maintenant qu'on est deuxième, déjà, c'est très maigre, ça se joue au goal average, donc on n'a pas de quoi se reposer sur nos lauriers. Et comme le disait Paul, à la faveur d'un résultat peut-être un peu moins bon ce soir à Auxerre, il y aura peut-être encore autre chose à aller chercher. Donc il faut, là il reste 7 matchs, de toute façon il reste plus beaucoup de matchs, il faut arrêter de faire les comptes, il faut aller chercher le plus de points possible et la meilleure place possible. Parce que, comme le disait Franck, ces barrages, certes, là, ils sont quasiment assurés, même si mathématiquement, on en est loin. Mais il faudrait vraiment une sacrée défaillance des Verts couplée à des performances exceptionnelles des poursuivants. Mais ces barrages, ils sont loin d'assurer un ticket pour la Ligue 1 l'an prochain.
Bon, j'aime bien les barrages, moi. J'aime bien. Ça m'appelle les bons souvenirs.
Côté pas Castor.
C'était pas un super souvenir.
C'est son côté Castor, Jérémy.
Castor. Castor barrage, ok, je viens de l'avoir. Magnifique. Bon, cette deuxième place acquise après un match loin d'être simple, samedi face à Concarneau, on en parle dans un instant. On est avec Eric également, qui nous appelle depuis Alerio, 04 77 10 0 0 10. Cette victoire face à Concarneau, on l'analyse tout de suite dans 100% Synthé.
100% Synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le 6-9, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Yann Théroux.
On a encore un très joli cadeau à vous offrir ce mardi dans le 6-9 France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est en concert samedi soir au Scarabée de Riorges. Je veux bien entendu parler de Kinvey. Écoutez-moi ça. Au Scarabée de Riorges, vos invitations sont à gagner dans le 6-9 France Bleu Saint-Étienne-Loire de ce mardi pour un réveil plein de bonne humeur.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé, Jérémy Marié.
Avec Franck Taluto du podcast de Sous de Verre, avec Joris Sabi, Paul Rivolier d'Envers et Contre Tous, on est ensemble jusqu'à 19h et on revient, on débrief cette victoire de l'AS Saint-Etienne, 1-0 ce week-end face à Concarneau lors de la 31e journée de Ligue 2, les Verts deuxième du championnat désormais, victoire compliquée, 1-0 avec un but sur lequel on a un tout petit peu crié sur France Bleu.
Le but de Nadé, Mickaël Nadé qui ouvre le score, un ballon dans la surface de réparation de Sissoko, ras du sol pour 4. centre avant de le fermer. Il peut pas tirer. Le ballon va sortir.
De Mickaël Nadé à la 23e minute.
Vous n'allez pas finir vous-même.
Vous n'allez pas finir la saison, Jérémy Marié. Faut...
Non.
7 matchs,
non,
là, c'est trop pour vous.
Non, ça va être compliqué. Ouais, mais en plus, j'aime pas trop le miel. Donc, c'est ça qui va être compliqué pour prendre soin de la voix.
Ah, d'accord, ok.
Ouais, c'est vrai que sans contact, c'est difficile à comprendre. Quand ça
je cherche un lien avec le castor. Mais...
Ouais, c'est ça, je cherchais aussi.
Bon, on est avec Eric, soyons sérieux, qui nous appelle au 04 77 10 00 10. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Salut. Quel est votre sentiment à vous, Eric, après cette victoire?
On a envie de pleurer, de remonter. C'est sûr que ça fait hyper plaisir, vu le début de saison qu'on a fait. Et puis, toutes ces questions qu'on s'est posées sur l'équipe, on voit qu'il y a une prise de conscience. Déjà, moi, je dis pour samedi du public qui a vraiment assuré de pas mettre de fumigène et d'handicaper aussi notre équipe pour les matchs prochains. Mais bon, je reste quand même un petit peu sur ma réserve. On va à Ajaccio, on reçoit Bordeaux, on va à Grenoble, Angers reçoit Grenoble, va à Troyes, reçoit Guingamp. Et c'est des matchs qui vont être capitaux. On voit la fatigue qui s'est installée dans l'équipe. On voit que les Verts, bon, même s'ils assurent, c'est de plus en plus compliqué. Les équipes qui viennent, comme moi, j'étais surpris par Concarneau, le jeu qu'ils ont développé avant et après le but, même si on a des occasions de mettre le deuxième. Mais sincèrement, on voit que c'est compliqué au niveau de la fatigue et aussi très certainement du stress,
La fatigue, Eric, la fatigue des joueurs stéphanois, c'est l'un des thèmes de cette émission. On en reparlera dans quelques minutes, mais ce que dit Eric est intéressant. Peut-être un sentiment mitigé avec ce match-là qui a été compliqué et avec la prestation de Concarneau qui nous a clairement posé des problèmes.
C'est un grand petit match de l'AS Saint-Etienne. Moi, je trouve que les Verts ont malgré tout été dans une maîtrise, mais il manque énormément de choses. Ça me fait penser de plus en plus, et c'était déjà le cas la semaine dernière de la victoire de Valenciennes, à la première série de victoires de l'AS Saint-Etienne cet automne, sous Laurent Batless, qui étaient des victoires qui étaient, dans un premier temps, très belles. Je me souviens de la victoire que vous allez chercher sur la pelouse de Laval, sur la pelouse de Caen, où vous êtes très convaincant, ce que vous avez été capable de faire face à Angers, face à Troyes, au début de cette série-là. Et la fin de série de Laurent Batless, de cet automne vert, avec 10 matchs sans défaite, ressemble de plus en plus au match qu'on est en train de voir sous Dalloglio depuis maintenant 2 ou 3 semaines. Mais cependant, tant que ça gagne, en fait, on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire.
Ouais, c'est même sentiment aussi partagé, qu'on régresse peut-être un peu dans le jeu, on voit moins de choses en tout cas, mais que l'essentiel est là.
Ouais, c'est compliqué, il y a de la fatigue, il y a peut-être la peur de gagner, comme on dit au tennis aussi, on arrive sur la fin de la saison malgré tout, donc les enjeux commencent à être importants, ça peut peser dans les têtes. Malgré tout, c'est vrai que si ça rigole, le match comme à Valenciennes, il est plié à la mi-temps. Donc on n'aurait pas eu la même lecture avec un 2-0 à la 45e. Parce que j'ai eu deux lectures à chaud où j'ai trouvé la fin de match très stressante, très, très tendue. Et finalement, en le reprenant à froid, Concarneau, à part peut-être la dernière frappe, n'a jamais été dangereux.
Ouais, mais il y a un sentiment de stress qui a été latent, je trouve, tout au long du match.
Parce que vous êtes à portée de tir. Parce qu'en fait, vous ne vous mettez pas à l'abri. Il est là.
Mais si, avec un peu plus de réussite, la frappe d'Mbuku, elle rentre à la 80e minute, on ne se pose plus cette question aussi. Je n'ai pas trouvé qu'on ait été très en danger face à Concarneau ce week-end. Je suis assez d'accord avec Franck. Cette dernière frappe, on tremble un peu parce qu'il fait une vraie parade. Hein. L'Arsenal s'est bien joué. Le joueur de Concarneau, là, qui fait une belle action.
Ouais. Belle percée.
Belle percée individuelle. En dehors de ça, on a quand même relativement pas été mis en danger. Même si Concarneau, j'ai trouvé que ça jouait plutôt pas trop mal. Il leur en manquait les 30 derniers mètres, mais j'ai pas senti une équipe de Saint-Etienne aux abois dans ce match-là.
Bon, Eric, le côté positif aussi, c'est qu'avec du cœur et du courage, cette équipe, elle est capable d'aller chercher des victoires aujourd'hui, et la Ligue 1 peut-être à la clé.
Vous savez, la dernière fois que j'ai vu les Verts monter, moi je suis à 300 km à peu près de Saint-Etienne, et donc c'était devant la mairie, avec tous les supporters des Verts, c'était en 2006 si je me trompe pas. Là, on y était allé avec mes enfants, ma femme et tout, et franchement c'est des souvenirs qui sont inoubliables. Oui, je voudrais revivre ça. Mais on doit quand même rester mesuré. Il faut quand même rester conscient que la fin de saison va être difficile parce que c'est 7 matchs qui restent. Si on veut vraiment avoir cette deuxième place, il faut vraiment gagner quasiment tous les matchs et que les autres fassent des faux pas, quoi. Donc, mais je suis un amoureux des Verts depuis toujours. Depuis plus de 40 ans, donc oui, j'espère qu'on ira au bout.
Écoutez, Eric, 20 ans après, vous viendrez devant la radio pour fêter ça, et puis après devant la mairie, oui, Paul Rivollier.
La force de cette équipe, Eric, c'est que c'est une équipe qui a connu la difficulté, et je pense qu'elle ne fera pas l'erreur peur de retomber dans une certaine facilité comme elle l'a fait après cette première série de victoires, je le rappelais tout à l'heure, cet automne. Donc ils nous le disent souvent d'ailleurs, les joueurs en conférence de presse ou en zone mixte, ils nous disent mais on sait d'où on vient, qu'on peut pas se relâcher, on n'a pas le droit, on sait qu'on vient de tellement loin qu'on ne pourra jamais se relâcher. C'est la force de cette équipe, et à l'inverse des équipes qui ont surdominé la saison, Auxerre et Angers ont finalement tout à perdre dans cette fin de championnat, puisque pour eux on était tous à dire il y a encore un mois et demi que c'était plié, qu'ils allaient monter de manière certaine. La réalité c'est que c'est pas certain.
Merci beaucoup Eric de nous avoir appelé ce soir au 04 77 10 0 0 10,
pour une nouvelle victoire, on l'espère
bien évidemment. Et allez, la Ligue 1 à la fin de la saison devant France Bleu, on fêtera tout ça. Allez, une victoire dans la difficulté face à Concarneau 3. Ouais, c'est bizarre d'appeler au rassemblement devant France Bleu.
Donc c'est vous et vous-même, vous verrez ça avec votre directeur.
Il y aura 5000 personnes. Vous savez, les rassemblements, ils sont suivis à Saint-Etienne.
C'est vrai. Bon, allez, je retire ce que je viens de dire. Bon, on va parler de Mickaël Nadé. Tiens, dans un instant, Mickaël Nadé au placard en début de saison, buteur providentiel ce week-end. On en parle juste après. Cette chanson qui nous évoque tout ça, un petit peu d'ambiance du stade, ça fait pas de mal aussi. Et puis une chanson qui va nous rappeler Concarneau, l'autre Finistère et les Innocents sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Les Innocents qui n'ont pas du tout de Bretagne d'ailleurs, j'ai appris ça ce matin, ils sont parisiens. Mais bon, peu importe, ils parlent de Bretagne, donc c'est très bien.
Comprendrais-tu ma belle qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. T'emmène hors des villes, en un fort, une presqu'île. Oubliez nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au vautour, tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir.
Finistère dans 100% Synthé, 18h26 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On est ensemble jusqu'à 19h pour revenir sur cette victoire, cet anniversaire réussi des 90 ans de l'SS ce week-end. Victoire 1-0 face à Concarneau. Et un homme dans le match,
C'est bien sûr Michael Nadé, le buteur, l'unique buteur stéphanois, buteur Michael Nadé, avec le trophée d'homme du match remis par nos confrères de beIN Sport.
Oui, ça fait plaisir d'avoir reçu ce trophée. Après aujourd'hui, on va plus retenir la victoire parce que c'était vraiment difficile. Mais bon, on a tenu bon et on n'a pas pris de but. Après, le plus important, c'est d'avancer et cette finale, faut rien lâcher et continuer sur la lancée. Les victoires dans le dur, ça saute toujours. Maintenant, après, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit faire et on fait cette continuer comme ça.
Cette match encore, voilà, le chemin est encore long, il faut y aller.
Ouais, cette finale, on va pas lâcher en tout cas, on est sur la bonne voie.
La voix toute douce du Golgoth de la défense stéphanoise, Michael Nadé.
La défense ? Non, l'attaque.
Oui, pardon, de l'attaque.
Oui,
de l'attaque.
Lukaku,
Le Lukaku, Lucien Bolt, stéphanois, je sais pas comment on peut l'analyser, cette prestation de Michael Nadé.
Il avait prévenu. Qui jouait attaquant avant dans une vidéo postée par la SS. Justement, il disait, on m'appelait Lukaku. Bah, voilà, on l'a vu, hein. Romelu, hein, c'était.
Bon, buteur du pied gauche. Buteur la semaine dernière, on le rappelle, hein, du côté de Valenciennes, oui. Un but refusé.
Ouais, il était incroyable.
Une reprise de volée au second poteau. Franchement, on ne le pensait pas capable de faire ça.
Enfin, je me souviens aussi de se rater à Angers. Ça n'avait pas fini dans le but.
Dans une moindre mesure, ouais.
Dans une moindre mesure aussi. Mais enfin, allez, plus sérieusement, quel match et quelle métamorphose quoi, de Michael Nadé qu'on avait tant critiqué depuis un an et demi. Enfin, ça semble incroyable aujourd'hui.
C'est sûr, quand on se rappelle qu'il a été lancé en 2017, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, je pense que c'est le doyen de cet effectif-là et par quoi il est passé des prêts. Une démise à la cave où il jouait plus du tout pendant des mois, voire des années entières.
Une saison titulaire en Ligue 1.
Voilà,
ça, je m'en souviens aussi.
Qui était improbable aussi.
Qui a conduit à la descente, enfin, pas que ça, hein, mais qui a participé, je trouve, à la descente du club aussi en deuxième division.
Il a un destin assez cabossé et c'est ce qui fait que l'histoire est belle aussi.
Oui, destin cabossé. Un an et demi compliqué en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne et aujourd'hui, allez, peut-on dire que c'est le défenseur numéro 1 dans l'effectif stéphanois ? Défenseur central, j'entends. Joris.
Ah, c'est difficile parce que pour moi la défense centrale a toujours été un axe qui a fonctionné quand même cette saison,
c'est vrai.
Que ce soit Briançon, Batoubine, Sika, même dans la période un petit peu compliquée de l'AS Saint-Etienne, on ressortait quand même cette défense centrale et notamment ce recrutement de Dylan Batoubine, Sika qui est à mes yeux toujours le plus réussi de cet été, même s'il y en a eu d'autres, hein, Ibrahim Sissoko notamment. Donc c'est difficile à dire que c'est le défenseur numéro un, mais par contre en tout cas il fait partie de cette équipe, de ses cadres désormais. C'est ça. Que Michael Nadé, ça fait 3 ans qu'on ne l'attend pas en fait. À chaque début de saison, il est placé
sur le départ. Oui, voilà, c'est ça.
Il est placé sur la liste des joueurs transférables. Chaque été, il reste et au final, chaque année, il arrive à s'imposer et à jouer de plus en plus. La saison dont parlait Paul, je me souviens, c'est Claude Puel qui le titularise dès la première journée face à Lorient.
Il revient en prêt de Quevilly,
exactement,
qui monte de national en Ligue 2. On pensait d'ailleurs qu'il allait partir du côté de Quevilly de manière définitive. Contre toute attente, il revient à l'AS Saint-Etienne et je vous redonne la main, Joris, et il prolonge de 3 ans. C'est Claude Puel qui décide de le prolonger. Et la suite, Joris ?
Et ouais, il fait 2-3 bons premiers matchs. C'est à l'issue de ces 2-3 bons premiers matchs, d'ailleurs, qu'il prolonge. Et bon, par contre, derrière, voilà, il y a tout ce qui s'est suivi. Comme le disait Paul, il est loin d'être le principal responsable. Mais cette saison-là, il joue une trentaine de matchs.
Ah,
il
y a cette descente. Vous êtes la pire défense de l'année, de la Ligue 1 cette année. C'est pas un hasard. Hein.
Quand il y a cette descente, il fait partie des joueurs qui doivent peut-être partir. Au final, là, il est là. Mm-hmm. Et depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, il faut le dire, c'est un des joueurs qui performe le plus. Mm-hmm. Et il a gagné sa place.
Aujourd'hui, d'où ma question, le sentiment qu'aujourd'hui, quand Olivier Dalloglio pose ses noms, Michael Nadé apparaît en premier, peut-être en défense centrale. Je ne sais pas si c'est une vision d'optique ou pas. Mais...
À partir du moment où il n'a pas Briançon, c'est pas bien compliqué. Mais
même quand Briançon est là.
Merci de refléter mon analyse.
Non, c'est Dylan Batoubine-Sika qui a glissé sur le banc.
Ouais, en retour de Cannes, ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut parler aussi à
100%, c'est peut-être pas le premier nom qui est coché.
Non, moi je suis d'accord avec
mais
ça.
Mais bon, après, on dit ça depuis.
Oui, on dit ça depuis plusieurs semaines.
Et 2 mois qu'il est titulaire.
Juste en un mot, Michael Nadé, c'est pas le joueur dont on parle le plus, c'est pas le joueur qui se met peut-être
en ce moment
le plus. Allez, oh non, mais.
Bah non, mais c'est la réalité.
Non, mais je peux parler un peu.
Allez-y, c'est votre émission.
Il y a 3 mois, vous en parliez de Michael Nadé ?
Oui. Il y avait des débats ici, je me rappelle. Ah, ça, je m'en souviens. Allez-y, posez votre question.
Merci. Non, mais est-ce qu'on peut parler un peu, voilà, de pour le grand public, c'est pas le joueur, c'est pas le joueur dont on parle le plus. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'homme Michael Nadé ? On a l'impression d'un grand Golgoth tout timide. C'est quelqu'un qui est apprécié dans le vestiaire de base, Michael Nadé, qui semble apprécié dans le vestiaire aussi.
Je sais pas. Non mais en vrai, j'ai pas de réponse à votre question. Oui, il semble apprécier. De ce que nous on voit, c'est pas un joueur qui divise, bien au contraire. Il y a qu'à voir tous ses coéquipiers qui sont venus le chambrer après son but, qui sont encore venus le chambrer en zone mixte. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui divise énormément. Maintenant, je suis pas en mesure de vous répondre, de savoir si Mickaël Ladé il est apprécié de tout le monde à la Saint-Étienne, parce que je n'en sais rien. En tout cas, que vous avez des infos que moi je n'ai pas. Hein.
Bah non, mais je n'ai des infos que vous avez peut-être, donc.
Non, je sais pas.
Non, vous avez des infos que nous n'avons pas. Vous avez des infos que j'ai.
Non.
Des infos que nous n'avons pas.
Bah, certainement, mais pas sur Mickaël.
N'essaie pas de créer la polémique, Jérémy Marie. N'essaie pas de créer la polémique.
Merci, Paul Rivolier. Bon, on va parler de nos coups de cœur juste après, dans 100% Synthé, 18h31. Nos coups de cœur, nos tops, nos flops dans cette rencontre. Venez nous les donner, tiens, vous aussi, cette victoire de la SS face à Concarneau. Quel joueur vous a le davantage plu sur cette rencontre? 04 77 10 0010.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Synthé jusqu'à 19h.
Salut, c'est Jonathan Yeux du Saint-Chamond Basket. Je vous donne rendez-vous ce mardi 9 avril à 20h30 à l'Arena Saint-Étienne Métropole pour la 29e journée de championnat Pro B face à l'Alliance Sport Alsace. Réservez dès maintenant vos places sur www.scbvg.com.
Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. La MAF, je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur maf.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici.
18h33, coup d'œil rapide à vos conditions météo, ça va se gâter dans les heures qui viennent. Un ciel voilé dans la soirée, une vingtaine de degrés pour la Loire et la Haute-Loire. Des risques d'orage, nous prévient Météo France au sommet du Forêt. La nuit ensuite s'annonce pluvieuse, tout comme la matinée avant le retour d'éclaircies dans l'après-midi. Et des températures qui chutent, 5 degrés demain matin pour Issangeaux, 8 à Saint-Étienne. Pas plus de 13 demain au meilleur de la journée pour Feur et Saint-Galmier. Et puis coup d'œil aussi à vos conditions de circulation, ça va être très rapide, aucun problème signalé. Sur les principaux axes ligériens et alti-ligériens, ça semble rouler parfaitement bien. En cas de souci sur les routes, évidemment, à ce numéro de téléphone 04 77 10 0010.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé. Jérémy Marillet.
Avec Paul Rivolier, Joris Sabine, dans Verre et contre tous, avec Franck Daluto du podcast Dessous de Verre. On est ensemble jusqu'à 19h pour débriefer cette victoire de l'AS Saint-Etienne. 1-0 lors de la 31e journée de Ligue 2. Victoire face à Concarneau lors des 90 ans de l'ASS fêtée par plusieurs groupes de supporters. Et à 18h34, on passe, allez, aux notes, nos coups de cœur sur cette rencontre-là. Tenez, messieurs, à qui avez-vous envie de déclarer votre amour ce soir? Je vais vous demander de choisir pour peut-être quelqu'un d'autre que Mickaël Nadé, vu qu'on vient d'en parler depuis 5 minutes dans 100% Synthé. Joris Abi, je vous vois.
Je suis en train de réfléchir à essayer de.
Bon, bah, on va choisir quelqu'un d'autre.
Franck Taluto, peut-être.
Franck Taluto. Vous avez peut-être un nom. Pour déclarer votre femme, il y a Maria Carré qui va vous accompagner pour parler d'amour un peu.
Allez-y. Non, mais pour sortir des sentiers battus, je voudrais mettre en avant Léo Pétro. Voilà, il a peut-être pas forcément
Léo Pétro.
Vous prêchez un convaincu.
Léo Pétro, mais je n'aurais pas misé sur lui.
Non, j'ai trouvé courageux, j'ai trouvé propre. C'est vrai qu'il a eu une période de moins bien. Il était même sorti de l'équipe. Et je trouve que depuis qu'il est revenu, il est très costaud. Alors, c'est pas toujours académique, c'est pas toujours très beau à voir par rapport à un Ivan Masson qui a beaucoup d'activités, qui déborde, qui sente, qui propose. Mais en attendant, il fait ce qu'on lui demande. Et c'est hermétique de son côté.
Léo Pétro, donc pour Franck Taluto, Joris Sabi, je vous laisse encore réfléchir un petit peu, ça n'a pas l'air évident.
J'ai une idée.
Non, mais j'ai pas envie de l'entendre tout de suite. Du coup. Paul Rivolier,
du coup, on va
pas
piquer, nickel.
J'espère que c'est lui. Bah, Irvine Cardona, bien évidemment. Non, parce qu'on a beaucoup parlé du but de Mickaël Nadé, mais ce but, il est rien si Irvine Cardona n'a pas une inspiration de génie, même deux. Premièrement, cet appel en profondeur, et puis cette lucidité, là où un attaquant sur. Allez, deux attaquants sur trois, même, je dirais, auraient tiré directement. Il temporise. Plat du pied, il met en retrait pour Nadé qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond. Franchement, ce geste-là, il est incroyable. Et on l'a revu, je l'avais trouvé difficile à faire déjà depuis le stade. Et je l'ai revu à la télévision cet après-midi. Je le trouve encore plus difficile une fois que je l'ai.
Les trois pas qu'il fait juste avant de transmettre le ballon, c'est dans un petit périmètre.
Voilà, c'est ça en fait. Je pensais qu'il y avait plus de place que ça. Et quand j'ai revu le ralenti, j'ai fait ah oui, non, en vrai, c'était quand même assez fermé.
Ça me fait toujours quelque chose de vous entendre avec Maria Carré derrière.
qu'il se passe quelque chose entre nous, Jérémy. Mais on se tourne autour, je trouve, depuis 3-4 mois. Il va falloir qu'on passe la vitesse supérieure.
Parlez-moi d'Irving Cardona plutôt. Non, Irving Cardona, on en parle sur ses derniers matchs depuis qu'il est redevenu titulaire à Angers. Irving Cardona, j'ai perdu mes stats. Voilà,
c'est votre meilleur joueur. Enfin, il n'y a même pas de débat. C'est votre
décisif à tous les matchs sauf le Paris FC.
Franchement, c'est pas un joueur de Ligue 2.
Il tire sur le poteau d'ailleurs.
C'est pas un joueur de Ligue 2, Irving Cardona. On le voit, il est deux crans au-dessus de tout le monde. Ça va trop vite pour les défenses adverses. Il est pas à son niveau dans ce championnat et ça se voit, mais on le savait. On se doutait qu'après ces 3-4 matchs d'adaptation où il fallait qu'il reprenne la forme, c'est un joueur qui allait rapidement enchaîner, pourvu que ça dure et pourvu qu'il continue d'inscrire des lignes statistiques tous les week-ends pour la Saint-Etienne.
Irving Cardona pour Paul Rivoli. Allez, Joris Sabi, c'est le moment. Votre coup de cœur.
C'est maintenant. Et pas moi pour sortir voilà, des sentiers battus également comme Franck. Ça sera un entrant. C'est Nathanaël Boukou que j'ai beaucoup aimé, pour le coup. Sur cette entrée en jeu, il provoque presque un penalty. Hein, il aurait pu être accordé. Et il y a poteau où pour moi il fait tout bien, il efface son vis-à-vis en prenant sur son contrôle de la tête, derrière il rentre sur son pied gauche en éliminant un autre joueur et ça frappe le poteau à quelques centimètres près, ça fait poteau rentrant. Donc vraie belle entrée de Nathanaël Boukou après un match qui avait été un petit peu moins bien en tant que titulaire la semaine précédente.
Il y a de musique pour les joueurs qu'on a moins aimé ou vous avez
non
prévu
c'est
ça
Maria Carré aussi voilà. Sauf si on a envie de me faire une surprise à la réalisation, mais pas peu importe, après libre à chacun de faire ce qu'il veut dans cette émission.
Il est pas réveillé Lucas, laissez-le tranquille.
Lucas à la réalisation de cette émission, effectivement. Ouais, en un mot, moi, c'est un petit bisou, voilà, c'était prêt. Voilà. Incroyable. Moi, c'est Dylan Chambaud que j'ai beaucoup aimé dans l'organisation du jeu.
Ah ok, je suis très surpris.
Bah non, mais j'ai trouvé Diane Chambaud particulièrement visible et actif sur le terrain. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa précision. Il y a eu du déchet, évidemment. Mais
visible, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il doit faire partie des 2-3 Stéphanois qui ont le plus touché de ballon sur ce match. Mais j'ai pas trouvé le Dylan Chambaud ultra décisif qu'on avait vu ces dernières semaines. Je suis pas loin de penser que c'est un de ses plus mauvais matchs sur les 3-4 dernières sorties. Après, attention, 3-4 dernières sorties, il avait placé la barre très très haut.
Oui, forcément. Bon, allez, je me fais rembarrer, ça me fait plaisir. Les notes d'Envers et Contre Tous, du coup, allez, le top 3 tous. Qu'on peut donner après chaque match sur le site.
Le top 3, vous l'avez pas cité, mais il y avait quand même Gauthier Larsonneur dedans.
Alors, évidemment,
c'est Mickaël Nadé, hein, le mieux noté. Devant Gauthier Larsonneur, 7,1 et Irving Cardona, 6,3.
Les flops, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la moyenne ou tout le monde a la moyenne?
Il y en a deux, il y en a un, je ne suis pas vraiment surpris, c'est Mathieu Cafaro, 4,9. Alors ça ne se joue à pas grand-chose, hein, il pourrait l'avoir. Là où je trouve les gens un peu plus sévères, c'est sur Ibrahim Sissoko, 4,8. Moi, je trouve qu'Ibrahim Sissoko mérite la moyenne sur ce match.
Sachant qu'il est impliqué sur le but en plus.
Oui, il est dans l'action qui amène le but, effectivement.
Il y a l'appel, hein, c'est toujours l'appel qui déclenche la passe, mais elle est incroyable, ça passe, elle casse deux lignes. Ça permet à Irving Cardona d'être dans une situation préférentielle dans la surface. Donc, bon. Ouais. Et puis, en fait, c'est Ibrahim Sissoko, c'est tout
ballon.
Le temps. Ouais, exactement. Ou même dans son jeu en pivot, je suis défenseur, il n'y a pas le goût de défendre sur lui. Hein. Autant que j'aurais pas le goût de défendre sur Cardona non plus, mais Sissoko, c'est un sacré
vous
client.
J'aurais le goût de défendre sur qui?
Ibrahim Awadji.
J'aurais pas dû poser la question.
Mais si c'est parce qu'il est blessé,
toujours à côté.
Ce serait un honneur de défendre sur Ibrahim Awadji.
Rapidement, Franck, la prestation d'Ibrahim Sissoko vous a posé question, vous ou pas?
Forcément que s'il met ce deuxième but, quand il touche le ballon, il ne la dévie pas assez.
Ouais. Sur un centre à terre,
ça change tout. Il aurait eu une passe quasi décisive et un but, ça changeait tout. Non, il est toujours intéressant dans son profil de bagarreur et de pivot.
Bon, allez, l'artiste qui va accompagner les flops, bah, c'est Jennifer. Elle a rien demandé à personne. On se retrouve juste après au soleil. Et Jennifer, pour parler de l'état de forme, la forme physique de nos joueurs stéphanois qui peut poser question dans cette fin de saison. 100% Saint-Etienne, on est ensemble jusqu'à 19h.
Ce qui ne me tue pas me rend fort. J'irai
saint-etienne-loire.fr. Au soleil sur France Bleu Saint-Etienne-Loire, 18h42, 100% synthé. On est ensemble jusqu'à 19h avec Jennifer, avec également Paul Rivolier, Joris Sabine, d'Envers et Contre Tous, Franck Taluto du podcast Dessous de Verre. On continue d'analyser cette victoire des Verts face à Concarneau, 1-0 ce week-end lors de la 31e journée de Ligue 2. Le soleil et les températures, tiens, justement, qui ont peut-être joué dans la performance compliquée de la S Saint-Etienne face à Concarneau. Qu'est-ce qui vous fait sourire,
messieurs ? Moi, je laisse l'expert météo en parler.
Ah oui, pardon, j'avais oublié.
J'ai pris le soleil ce week-end.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, vous étiez bord pelouse pour des photos pour Envers et Contre Tous.
Ouais, et puis de la journée avec le rassemblement et tout, j'ai mal vécu ça. Et je pense qu'un point météo m'aurait été utile. J'aurais prévu la crème solaire.
Ah, vous n'aviez pas de crème solaire ?
Et non, j'avais rien.
Il était rouge comme une tomate samedi soir.
Non, ça se voit pas trop. Ah si, une petite différence juste en dessous des cheveux, là où j'ai
la casquette.
Ouais.
Mais,
petite erreur.
Mais je bronze très vite.
On
est content de le savoir. En tout cas, nos auditeurs aussi. Je suis bon, Joris Sabi.
Joris Sabi a souffert. Les joueurs stéphanois ont souffert aussi. On a vu Léo Petro, Ivan Masson victime de crampes. On a eu également, allez, peut-être des joueurs qui n'étaient pas très en jambes. Ce sont les mots d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur, après la rencontre. Un Anthony Briançon absent, préservé avec des gènes musculaires. Cet état de forme stéphanois, est-ce que ça vous inquiète, vous, messieurs, pour cette fin de saison qui se dessine. Je vous vois faire la moue un peu, Paul Rivolier.
Bah quand même, en défense, il y a des questions qui peuvent se poser très rapidement, indépendamment déjà des blessures ou de l'aspect physique. Ivan Masson, déjà, il n'est pas là le week-end prochain face à Ajaccio, il est suspendu. Donc ça en fait déjà un en moins. Vous avez un Anto Briançon qui est sur une jambe et demie depuis quand même un mois. Un coup, il joue, un coup, il ne joue pas. Denis Sapia, on le rappelle, qui est également absent, qui est annoncé de retour face à Bordeaux, mais j'ai écouté son interview auprès du diffuseur avant le match. Il disait que même lui, c'était peut-être un peu juste pour, même pour ce match face à Bordeaux. Donc attention quand même pour l'AS Saint-Etienne. Léo Petro crampé, vous l'avez dit. Attention pour l'AS Saint-Etienne. Il va falloir à un moment donné trouver aussi des joueurs capables de jouer en défense chez les Verts.
Ça vous inquiète.
Il n'y en a pas, surtout sur les côtés, puisque sans Masson, sans Apia, déjà, c'est compliqué.
Oui, forcément. Ça vous inquiète, ça, Franck ?
C'est la seule ombre au tableau pour le moment.
Enfin, c'est vrai.
Tout le reste est positif, donc mais c'est vrai que ça reste la défense est le gros point fort de cette équipe. Donc dès que ce secteur de jeu est impacté par des absences, on se pose des questions parce que c'est des joueurs qui ont pris leur marque, qui sont performants. Donc voilà, est-ce que leurs remplaçants seront au niveau ? Ça va être toute la question de la semaine.
Puis c'est le secteur de jeu, on est le moins fourni. Si ça tombait au milieu de terrain, ces absences, on a quand même sur le banc là ce week-end sur le banc. Il y avait Bouchoirie, il y avait Fomba. On a aussi des jeunes, il y avait Mouefek aussi, oui. Donc il y avait déjà trois joueurs qui peuvent être presque titulaires, qui étaient sur le banc. Et sachant qu'il y a des jeunes qui poussent aussi derrière dans ce secteur de jeu, autant en défense, Masson, on l'a vu, hein, quand il y a eu l'absence d'Apia, il a glissé à droite. On bricole un peu plus et du coup c'est un petit peu plus risqué. Et il faut espérer que ça aille bien, qu'il n'y ait pas d'autres absences supplémentaires, parce que là on sera obligé de vraiment faire une défense un peu new look et je suis pas sûr que ça tiendra la route, en tout cas pour cette match.
La défense new look on l'aura forcément de toute façon quoi qu'il arrive à Ajaccio avec la suspension d'Ivan Masson, Denis Sapia qui sera probablement pas de retour à moins d'une bonne et incroyable surprise. On a vu Mahmoud Bentaïg, entrer arrière droit en fin de rencontre face à Concarneau. On a vu Eman Mouefek aussi jouer arrière droit en fin de match. Vous partirez sur quelle option, vous, là, messieurs ? Allez, on élargit le débat, parce que ça va être la question qui va nous agiter pendant toute la semaine.
Je vais pas vous mentir, et je suis quand même plus rassuré par un Ayman Mouefek arrière droit, où c'est pas le poste, qu'un Mahmoud Bentaïg, en toute honnêteté. S'il faut choisir entre les deux, moi je mettrais Ayman côté droit. Il l'a déjà fait en Ligue 1, notamment face à Marseille. Il avait été particulièrement bon pour remplacer Mathieu Debuchy, qui s'était gravement blessé. Donc, moi, je pense qu'Aymen peut le faire.
Ouais, je vais suivre Paul, surtout à Ajaccio, où ça risque quand même d'envoyer, qu'il y ait pas mal de duels. Donc, j'ai plus confiance dans sa capacité à lui à encaisser les chocs et à sortir vainqueur des duels.
Joris, la solution Eman Mouefek aussi. En tout cas, après le match, Olivier Dalloglio, on lui a posé une question là-dessus, sur l'option Bentaïg, peut-être testé avant Ajaccio. C'était peut-être pas la solution qu'il va retenir. Il nous l'a fait comprendre, Olivier Dalloglio.
Ouais, j'ai trouvé que son entrée, elle avait été compliquée à Mahmoud Bentaïg, mais sur les dernières semaines, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Moi, j'opterais plutôt sur la solution quand même du poste pour poste, même
si.
À droite, sur son mauvais pied, mais ça reste quand même son poste, hein, en tant que latéral. Moi, c'est.
Vraiment?
Moi, j'y vais pas.
C'est un latéral.
Oui.
Mouefek peut avoir des oublis défensifs. Il aura pas le placement d'un latéral. Alors, certes, il avait joué à ce poste-là en Ligue 1 à plusieurs reprises, justement pour bricoler parce qu'on n'avait personne. Je suis pas sûr que Ayman Mouefek en tant que latéral droit soit une solution plus rassurante que Mahmoud Bentaïg. C'est mon avis personnel.
Je vous assure que si Joris Sabi. J'ai des certitudes.
La bonne référence. Non, mais moi, Mahmoud Bentaïk, je le trouve pas inintéressant sur ses entrées. Celle de ce week-end était plus compliquée. Mais encore une fois, rentrer en cours de jeu, c'est jamais facile. Et je trouve pas qu'il ait été en dessous de tout non plus.
Un café. Allez, je vous offre un café si Mahmoud Bentaïk est titulaire.
Après, moi, j'ai pas dit que ça allait être le cas. Si j'étais coach, vous venez de nous dire ça.
Si, vous venez de nous dire ça.
Bientôt, il va nous glisser Léo Pétro arrière droit, il va mettre Bentaïk à gauche.
Et Nader avant-centre, voilà.
Bah, c'est dit.
Joris Sabi, voilà, on vient de comprendre que vous n'étiez pas expert. Merci beaucoup d'être venu.
De rien.
Ça fait plaisir.
Bah, allez, vous faites des questions ouvertes, je vous réponds.
Vaut mieux les fermer, les questions avec vous, oui, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus.
Vous verrez, peut-être. On verra ce week-end.
Voilà, je ne sais plus quoi dire. On va parler de l'ambiance de ce match face à Concarneau qui était incroyable. Avec Joris Sabi, qu'on va voir si il y a un expert là-dessus avec des questions fermées pour vous, Joris. C'est promis.
Je préfère.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Qui sera le plus fort?
Qui sera le plus fort
au jeu de Loire?
Sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire, de 11h à midi, c'est le jeu de Loire. Vos énigmes sonores avec trois sons, à vous de découvrir le lieu, la personnalité ou encore l'événement dans la Loire ou la Haute-Loire. Cette semaine, on continue bien sûr de vous faire plaisir avec des cadeaux. Vous allez pouvoir repartir avec votre carte illicado d'une valeur de 50€ pour vous faire plaisir dans les enseignes de votre choix. Alors on vous attend, venez tenter votre chance dans le jeu de Loire sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé, Jérémy Marillet.
Jusqu'à 19h, on continue d'analyser, débriefer cette victoire de l'AS Saint-Etienne 1-0 face à Concarneau lors de la 31e journée de Ligue 2 ce week-end. Les Verts deuxièmes du championnat désormais. Une victoire qui permet de fêter comme il se doit ce 90e anniversaire du club avec les trois groupes de supporters stéphanois qui appelaient au rassemblement pour fêter cet anniversaire. Une ambiance incroyable, ça avait démarré dès la matinée avec un rassemblement au parc François Mitterrand dans le centre-ville de Saint-Té. Des milliers de personnes qui étaient là au rendez-vous avec des stands, des activités pour les enfants, des chants, des prises de parole. On a envie juste de profiter de l'ambiance comme ça, de ne rien dire d'autre. Cette matinée de festivité avant le match, vous l'avez suivi, hein, messieurs, vous avez ressenti quoi ?
Elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien sur plein de points parce que déjà j'ai trouvé qu'il y avait une vraie pluralité des profils de supporters. Souvent quand des groupes de supporters font un appel parce que je vais chanter Lucas, faut l'enlever ce... Non, souvent quand les groupes de supporters font un appel comme ça au rassemblement, on a quand même plutôt des habitués des COP qui répondent présents. Et là, ils avaient vraiment insisté dans toute la communication d'avant-événement sur le fait que c'était un événement qui se voulait pour tous les supporters, pour les familles, pour les enfants. Et je suis arrivé un peu en retard, moi, samedi matin, pour pas vous mentir.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que j'ai beaucoup travaillé vendredi soir.
Ah oui.
Assez tard. Et quand je suis arrivé, c'était déjà blindé. Il y avait déjà, je pense, 1500, 2000 personnes. Et qu'une demi-heure après mon arrivée, il y avait, je pense, deux fois plus de monde.
C'est parce que vous êtes arrivé. Les gens, ça va.
Ah, j'étais sur scène.
Au micro, ça a dit Paul Rivolier est là. Et...
Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je suis envers et contre tous. Merci beaucoup, messieurs.
On a quand même un peu notre petite célébrité. Hein.
Oui, évidemment.
On est dans des cahiers de fans. Hein.
Tout à fait, oui. Oui, en plus, c'est vrai. Franck Taluto, vous l'avez vécu à distance, hein, je crois, cet événement. Même à distance, vous avez
procuration.
Vous avez ressenti quoi, vous, en voyant cette masse verte dans
C'était beau à voir. Alors après, le final. C'est vraiment ce tifo magnifique sur plusieurs tribunes. J'ai vu ça par écran, donc j'étais incapable de dire c'était sur 2, 3, 4 tribunes. C'était un peu plus compliqué. 2, il me semblait. Mais...
Henri Point et Jean
Stéphane. Mais non, c'est beau de voir ces gens se réunir. Après, c'est vrai que les feux étaient ouverts, puisqu'il faisait beau, on était samedi. Voilà, jour de match, donc tout était réuni pour que.
Et il y avait ce cortège aussi, Joris, avant justement le tifo.
Justement, petite ambiance au sein du cortège. On l'a. Voilà. Allez-y, Paul, vous pouvez chanter, hein, faites-vous plaisir. dans ce cortège aussi, Joris Sabi, vous l'avez suivi, c'est ça?
Exactement, ouais, non, c'était impressionnant.
Paul, s'il vous plaît, Paul, calmez-vous.
En fait, c'était tout le rassemblement qui a donc participé au cortège. Et là, c'est pareil, les groupes avaient bien insisté sur le fait qu'il voilà, fallait être extrêmement prudent avec les engins pyrotechniques, aucun engin explosif. Tout ça a été respecté, donc ça a fait que voilà, cet événement-là, le cortège, c'est pareil, comme le disait Paul, il n'y avait pas les profils habituels qu'on a l'habitude de voir en cortège quand les Greens font leurs 30 ans ou les Magic. Ils étaient là aussi, mais il y avait aussi
des familles,
enfants. Ouais. Voilà, tout le monde était là pour la même cause, les 90 ans de la S Saint-Etienne. Et comme vous le disiez, en fait, il y a tout qui a été réuni. Il y avait le beau temps, la très belle série stéphanoise. Tout était réuni pour que ça soit une belle fête et ça a été une très belle fête du début à la fin. Et puis après, comme Franck le disait, je vais quand même rebondir là-dessus, ce tifo, il est exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu de l'analyser, de regarder un peu.
Il y avait beaucoup de choses. Oui,
et en fait, ça représentait aussi cet événement-là qui se voulait de tous les supporters stéphanois. Ça allait
des
représentations de Roger Rocher à celle de Robert Berich dans un derby.
Dans le Cop Sud et en tribune Henri Point, avec comme si on était dans un appartement, les murs de l'appartement, tous les détails d'un appartement qui est rappelé des souvenirs et des moments forts de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Enfin, je sais pas, vous-même, Franck, devant votre télé, vous êtes amusé comme ça, essayer de deviner ces petits détails.
Ouais, il y a quelques petits clins d'œil, il me semble avoir vu Curco, Platoche. Mais c'était vraiment du boulot. Mais pour ceux qui suivent la Saint-Etienne, enfin, je pense que les gens ne sont pas surpris. On a eu l'occasion de voir des tifos sur l'ensemble du stade. Donc, et on sait que ces gens-là sont capables de faire des choses extraordinaires.
Particularité technique, sans trahir de secret, le rendu du tifo aussi était un petit peu particulier, différent peut-être de ce qu'on peut voir d'habitude. C'était un tifo peinture, en fait. Et donc, du coup, le rendu était, je trouve, d'autant plus
sublimé. Tifo peinture, alors, on va expliquer la différence.
En fait, d'habitude, souvent, les tifos, ce sont des bâches ou des couches de plastique qu'on superpose les unes sur les autres pour faire un motif. Et là, les groupes avaient choisi, en l'occurrence, beaucoup les Green Angels avaient choisi de peindre directement sur le plastique. Donc, le rendu, la méthode était assez innovante. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Et c'était, franchement, c'était une toile de maître. Il y a un tifo quand même qui fait quasiment 100 mètres de long. La tribune Henri Point fait la totalité du terrain. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, un tifo sur 100 mètres de longueur, c'est juste monumental.
Des mois et des mois de travail.
Ouais, complètement. Puis il y a aussi cet effet, vu que c'est levé sur les poutres du stade Geoffroy Guichard. En fait, c'est vraiment
c'est
face.
Du bas pour aller vers le
parce
haut.
Parce que, en fait, si c'est sur la tribune, comme d'habitude, où les supporters sont dessous, il y a une inclinaison qui est moindre, donc on peut moins constater les détails. C'est moins impressionnant. Moi, je me mets à la place d'un joueur quand il sort du tunnel, il hallucine.
Ce qu'a dit Dylan Batoumissika.
Il y a deux voiles sur l'entièreté des deux tribunes.
Justement, écoutez un petit peu l'ambiance qu'il y avait lorsque les joueurs étaient dans le tunnel. Prêt à aller sur le terrain. L'hymne de la SS, a cappella. Plus de 37 000 supporters comme ça, les joueurs dans le couloir en train d'attendre pour rentrer sur la pelouse en entendant ça. Il doit y avoir des frissons.
T'as envie de t'arracher. Franchement, t'as envie de t'arracher. Ou alors à l'inverse, tu te liquéfies, je sais pas. En vrai, c'est impressionnant aussi. Hein. Moi, je peux concevoir aussi qu'il y ait des joueurs qui aient du mal avec ça.
Bah, je pense aux Concarneaux qui, eux, ont eu une saison très compliquée au niveau des stades, en jouant jamais à domicile et en alternant entre quatre stades, parfois avec des affluences inférieures à 2000 personnes. Ils arrivent à Geoffroy Guichard ce jour-là pour les 90 ans du club où il y a 37 000 personnes chauffées à bloc. C'est incroyable.
Ouais. Allez-y, Paul.
Et l'image était, je risque de parler des Concarnois, l'image était cocasse dans l'avant-match. On l'a vécu ensemble, Jérémy, lors de l'échauffement des Concarnois. Le staff de Concarneau qui est sur la pelouse sort les téléphones pour immortaliser l'avant-match à une demi-heure du coup d'envoi et prendre les premières vibrations du Cop Nord et du Cop Sud qui étaient en train de se chauffer la voix. Et les mecs, ils étaient à Euro Disney, quoi. Ils sont arrivés à Geoffroy Guichard. Enfin, faut imaginer qu'un club comme Concarneau, venir à Saint-Etienne, dans le Chaudron, c'est un peu leur Ligue des Champions. Je crois que c'était les mots d'un des supporters.
Non, exactement. Et on les a en plus, ces mots d'un supporter de Concarneau qui était replacé en tribune présidentielle. Le virage, le parcage visiteur était finalement alloué aux Stéphanois. Et voici ce qu'un supporter de Concarneau a déclaré notre micro juste après le match.
Ah, mais jamais notre vie. Jamais notre vie, on jouera devant autant de monde. C'est un truc de ouf. C'est la Champions League pour nous. Nous, on est tellement contents de jouer dans un stade mythique comme ça. C'est exceptionnel. On est hyper bien reçus et tout. Respect. Grand respect. respect, Stéphanois.
Vous avez kiffé?
Ah mais de ouf, de ouf. Ah, des super souvenirs, et génial. Franchement, les supporters et tout, respect, mythique.
Franck Taluto, c'est juste beau et incroyable d'entendre un tel message de supporters venus de plusieurs centaines de kilomètres.
Ouais, mais je pense, enfin, on se rend pas compte de la trajectoire de cette équipe, d'où ils viennent, donc forcément arriver dans un stade comme ça, même si c'est de la Ligue 2, c'est incroyable. Et juste pour revenir sur la question d'avant, je pense que ça peut que donner des forces de voir ça, même pour les adversaires, parce que c'est pas un environnement hostile. Voilà, c'est pas comme si vous, vous rentrez ouais. sous une bronca, là, ça peut paralyser, mais là, je pense que ça donne plus des forces qu'autre chose.
Les supporters concarnois, d'ailleurs, qu'on a croisés, nous, en sortant du stade, 3-4 heures après, en train de faire la bringue avec les supporters.
Oui, ils étaient bien, ils avaient l'air très bien.
Ouais, ils étaient bien intégrés à la ville.
Ils ont beaucoup travaillé comme vous, je crois, les supporters de Concarneau. Non, juste un mot, messieurs, pour terminer. Il y a Eric qui nous en a parlé en début d'émission au 04 77 10 0 0 10. Il y a eu beaucoup de messages aussi là-dessus. Pas de fumigène lors de cette rencontre-là. Non, mais c'est important d'en parler, de l'évoquer.
Pour moi, c'est un non-événement.
Je ne suis pas convaincu que ce soit un non-événement, je ne sais pas.
Non, mais en fait, je pense que les gens ont confondu déjà beaucoup de choses. Ils ont confondu l'appel des groupes sur la bonne tenue et l'absence de pyrotechnie, d'engins explosifs lors du rassemblement du matin et la potentielle pyrotechnie l'après-midi. Ça ne m'aurait pas choqué qu'il y ait de la pyrotechnie en COP Sud, en toute franchise, après ce tifo-là. Les groupes ont choisi de ne pas le faire, ils ont leur raison, mais ça ne m'aurait pas choqué personnellement.
Le stade Geoffroy Guichard, qui sera sans doute plein pour le prochain match à domicile, sera face à Bordeaux. La billetterie qui ouvre demain, je crois d'ailleurs, pour réserver aux places pour ce match face à Bordeaux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans 100% Synthé. Franck Taluto, Joris Sabi, Henri Bollier. Belle soirée à vous.
Merci.
Bientôt. Les Verts deuxième, évidemment, on le revient et on le rappelle. 100% Synthé, écoutez en podcast dès maintenant sur tous les sites. Bonne soirée à vous.